Bienvenue au podcast Sortie de secours présenté par Suicide Action Montréal. Mon nom est Joannie Duquette et ici, ce sera un endroit où on va vous présenter des discussions sans tabou, sans jugement sur le sujet du suicide et surtout où on va poser les vraies questions. Le suicide, il faut en parler puis on est là pour ça. Si vous êtes inquiet pour un proche, vous avez perdu quelqu'un ou si vous-même vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas, composez le 1-866-APPEL et surtout, ne restez pas seul dans la détresse. Dans l'émission aujourd'hui, nous allons parler du suicide chez les hommes. Bon épisode! Aujourd'hui, à l'épisode, on va aborder le thème du suicide, mais particulièrement chez les hommes. Et notre invité est M. Pierre Lheureux, il est président du conseil d'administration du Centre de ressources pour hommes de Montréal. M. Lheureux, bienvenue.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Moi, c'est un sujet qui me touche vraiment personnellement. On sait que le nombre de suicides chez les hommes est trois fois plus élevé que chez les femmes au Québec. Est-ce qu'on a une façon d'expliquer ça, M. Lheureux?
Il y en aurait probablement plusieurs. Moi, celle qui, au fil des années, s'est imposée, bon, vous comprendrez, j'ai 68 ans, j'ai 43 ans de pratique, principalement en établissement de santé du réseau de la santé et des services sociaux et dans, beaucoup dans les organismes communautaires pour hommes. Moi, je reste à penser que le principal facteur demeure la socialisation masculine. Au-delà des facteurs très personnels qui peuvent être multiples, il y a un dénominateur commun qui fait que pourquoi trois fois plus d'hommes que de femmes, mais je pense que ça va avec la socialisation des hommes et le type de psyché que la socialisation masculine continue de convoyer et d'amener les hommes à développer. On dit parfois depuis quelques décennies que bon, le modèle traditionnel de l'homme est en train de disparaître. Moi, je m'inscris en faux derrière, contre ça. C'est pas tout à fait vrai. Il a tendance à revenir par toutes sortes d'autres portes, par toutes sortes d'autres modèles. Moi, j'ai été élevé avec John Wayne. Ça confirme mon âge. Mais si je vais au cinéma et je vais voir Vin Diesel, je vois la même chose. C'est John Wayne, sauf qu'il y a plus de morts qu'il y en avait dans le temps, tout simplement. Donc, la psyché masculine, les modèles traditionnels qui l'amènent, elle est faite souvent de quelque chose comme un certain désir là, de grandiosité. Il faut réussir sa vie, réussir dans la vie, puis hein, ça peut vouloir dire toutes sortes de choses, mais il y a comme un impératif qui est amené, une exigence qui fait que les hommes se prennent à ce jeu. Des fois, je dirais de la surenchère, surenchère comme héros, surenchère comme aventurier, surenchère comme homme à succès, surenchère comme artiste, toutes sortes de surenchères. C'est encouragé chez les garçons depuis le moment où ils commencent à jouer à la balle, puis on voit en eux un futur champion de soccer, depuis la première fois où ils réussissent à lancer une balle de tennis avec un hockey dans la ruelle, puis on dit « Aïe, on va le mettre dans la Ligue nationale, ce petit-là ». Et pour arriver à remplir ces rôles-là éventuellement, on fait pas ça en se reposant et en faisant rien. Il y a un processus par lequel on amène les hommes souvent, trop souvent, puis en bonne partie inconsciemment aussi, même chez les proches. On les amène à penser que pour réussir à être ce surhomme, cette personne qui réussit tout, ben, il y a des moyens. Il faut se couper. Moi, je prétends que les hommes, quand ils s'embarquent dans cette quête de devenir un homme, un vrai, là, ils doivent comprendre qu'ils vont devoir se couper de plein de choses. Ils vont devoir banaliser très jeune dans leur vie les signaux physiques, pourtant essentiels, du fait qu'ils vont pas bien ou qu'ils vont bien. Ils vont les banaliser de toutes sortes de manières. Qui on applaudit à l'aréna? Le petit gars qui s'est fait rentrer dans la bande, qui est tout étourdi, mais qui se relève, qui dit « Non, 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 je veux continuer. »
Comme si de rien n'était.
Et ça continue. Les accidents de travail mineurs, le nombre d'hommes qui résistent ou qui rechignent à les nommer, les blessures à la maison en train de faire des travaux, qu'on dit « Non, on n'a pas besoin d'aller à l'hôpital. » C'est sûrement pas cassé. Ils font la même game aussi au niveau émotionnel. Si tu apprends à pas faire attention à tes sensations physiques, tu apprends aussi à pas pleurer, à pas montrer que tu es inquiet, à pas montrer que tu as peur, à pas montrer que tu sais pas.
Donc, le stress, j'imagine, aussi l'angoisse.
Le stress aussi. Donc, tu te coupes aussi au plan émotionnel. Tu te désensibilises. Et heureusement, tous les hommes ne sont pas désensibilisés à un niveau extrême. Et je dirais que le corollaire de ça, ben c'est comme tu ne veux pas montrer ça, tu fais aussi en sorte de te tenir un peu loin des gens qui voudraient être fins, attentifs, bons avec toi. Tu leur dis « non, ça va, non, c'est pas grave, je vais me débrouiller tout seul, pas de problème. » Ben c'est sûr que quand tu te retrouves plus tard dans la vie, puis la vie, elle en amène des défis, elle en amène des pertes, elle en amène des difficultés, et que tu as développé cette psyché-là de te débrouiller tout seul, de banaliser les signes physiques, banaliser les signes émotionnels, banaliser les signes que les relations ne vont pas bien, ben tu te retrouves un très bon candidat pour être complètement seul, complètement isolé, pour faire face à des défis qui sont trop forts pour n'importe quel être humain, où il faut être capable de dire « oui, j'ai besoin, oui, aide-moi, oui, écoute-moi, au moins ça va me faire du bien ».
Donc, de penser, moi, ce qui me frappe, c'est que, bon, étant, bon, trentenaire, j'ai 35 ans, de dire « oh non, mais c'est une nouvelle génération d'hommes qui s'ouvrent et qui parlent de leurs sentiments sans gêne, qui n'en ont pas de problème, qui vont demander de l'aide ». Donc, c'est pas si acquis que ça.
C'est pas si acquis que ça. En même temps, je pense qu'il faut être juste et ce que tu amènes est important. On sent un changement générationnel, oui, mais en même temps, il n'est pas radical. On va être honnête, il reste des éléments de cette psyché de réussite, cette psyché de pas vouloir avoir l'air faible. C'est pas partout. C'est sûr que ce que je vois à tous les jours dans les hommes qu'on reçoit, je vois des hommes qui, par rapport à leur relation d'intimité, sont plus ouverts.
OK.
Ça, je le vois. C'est malheureusement pas chez tous, parce que malheureusement, on en a encore des jeunes hommes qui vont passer à l'acte, qui ont le sentiment que leur vie n'est pas réussie, que leur vie ne sera pas réussie et qui font les mêmes choix drastiques que les générations précédentes ont fait parfois. Mais oui, on voit de plus en plus de jeunes hommes plus ouverts, qui se confient davantage à leurs proches, à leurs amis, incluant leurs amis de gars, ce qu'on ne faisait pas dans ma génération à moi. Là, ça n'existait pas. Là, on prenait une bière et on oubliait.
Ben oui, on attendait que ça passe.
Ça passait, oui, ça passait toujours. Ben, des fois, c'était long.
Oui.
Puis des fois, on s'enlisait dans de la consommation pour une période qui dépassait la soirée. C'est ça. Alors oui, il y a un changement, mais il reste que ce que je dis, c'est que le modèle traditionnel continue de s'attaquer aux jeunes hommes, de leur faire voir le fait d'être un homme, d'être solide, que ça veut dire ça, ça et ça. Il faut se couper de certaines choses, il ne faut pas prendre au sérieux certaines difficultés, il faut se débrouiller tout seul plus souvent qu'autrement.
On s'entend que c'est pas un travail de une semaine, là, tout ça. Là, c'est une éducation qui reste à refaire. Oui. Mais comment on fait pour s'attaquer à un gros morceau comme ça pour les hommes? Moi, la seule question qui me vient en tête, c'est « mais on part de où, là? » Comment on commence ça?
Ben, c'est ça, il y a beaucoup de choses, effectivement, dans ça. Moi, une des choses que je me dis souvent, c'est que, d'une part, qu'on aille vers les hommes. Parce que, tu sais, si ce rôle-là persiste encore souvent, c'est aussi parfois parce que les hommes et les femmes autour des hommes veulent pas trop brasser ça, veulent pas trop susciter d'inquiétude ou réagissent très vite au fait que, bon, il n'y a pas l'air d'être prêt à en parler, j'insisterai pas. Tu sais, on n'ose pas se rapprocher des hommes. Tu sais, je dirais à deux niveaux, là. On n'ose pas toujours se rapprocher des hommes proches de nous quand on a pourtant le senti qu'ils vont pas si bien que ça. Puis même s'ils nous repoussent un peu, là, on reste. Non, mais je veux t'entendre. Je suis inquiet pour toi.
C'est important.
C'est important. T'es important pour moi.
Mm-hmm.
À un niveau social, je dirais qu'il y a un autre enjeu, c'est qu'on a socialement, je pense, encore un angle mort par rapport à la détresse masculine. On voit beaucoup plus d'attention portée aux problèmes masculins, consommation, que ce soit drogue, alcool, jeu, pornographie, n'importe quoi. On voit beaucoup d'attention portée aux problématiques de violence. On voit beaucoup moins d'attention portée à la détresse ordinaire. Là. Un homme qui vit une perte, bon, je pense à des amis qui ont perdu un enfant adulte. Ben, la conjointe a eu énormément d'attention. Lui a donné beaucoup d'attention à sa conjointe. Mais s'il n'y avait pas eu une couple de personnes pour dire « attends un peu, comment il va, lui? » On l'aurait tous oublié parce qu'il était occupé, il faisait toutes sortes de choses. Il a préparé les funérailles, il a préparé liquider l'appartement puis les biens de leur fille. Mais lui, il n'avait pas l'air d'aller mal, il s'occupait, il faisait plein de choses. Mais...
Comme si, après ma barre, on n'y allait pas directement vers...
Voilà. Donc ça, c'est à un niveau plus personnel, là, mais à un niveau social, c'est un peu la même chose. Est-ce qu'on a des programmes qui s'intéressent aux hommes en difficulté, en détresse. Un exemple que je vois qui est intéressant, dans les cas de suicide, un très grand nombre de ces situations-là, comme dans les cas d'ailleurs de violence conjugale ou d'homicide, c'est des situations de séparation. Mm-hmm. Est-ce qu'on va, est-ce qu'on parle, est-ce qu'on offre de l'accompagnement aux hommes dans une situation de séparation? Non. Très peu, très, très peu. C'est rarissime. On leur offre des conseils juridiques, oui, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas essentiellement et uniquement de ça qu'ils mm-hmm. ont besoin. Ils ont besoin de savoir que vivre ça, ça bouleverse, ça brasse une vie. Ça peut donner l'impression que mon projet de vie vient de sacrer le camp.
C'est terminé.
Mais il y a peu de services qui vont au-devant, qui soulèvent ces choses-là. Alors, moi, je dirais toutes les périodes où des hommes peuvent être vulnérables. Là, je donne l'exemple de la séparation, mais ce peut être des pertes économiques, ce peut être une maladie, ce peut être des mises à pied qui n'étaient pas prévues. Les stress qu'on a vécu au cours de la dernière pandémie sont de cette nature-là. Beaucoup d'hommes ont vécu des choses extrêmement difficiles, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui allait vers ça? J'ai un bel exemple, justement à l'inverse, mm-hmm. d'une belle initiative qui avait été prise ici à Montréal autour de ça. Il y a de ça 3 ans, vous vous rappelez probablement de la fameuse crise du taxi, mm-hmm. quand le gouvernement a décidé d'abolir les permis
oui.
avec toute la crise. Les intervenants, ben, les gens de Suicide Action en étaient, les gens du Centre de ressources pour hommes en étaient, d'autres gens en étaient, les établissements de santé, les CIUS, les CLSC notamment, se sont mobilisés et ont préparé une campagne où ils allaient avec un petit signet, on allait voir les chauffeurs de taxi sur leur poste de taxi, dans leurs assemblées syndicales,
okay.
pour leur dire, vous allez vivre des choses difficiles, ça se pourrait que ça brasse votre famille, ça se pourrait que vous, ça vous brasse, ça se pourrait que vous n'ayez jamais pensé que vous seriez aussi anxieux que ça, peut-être même complètement découragé. Appelez-nous. Et on a distribué, je ne sais plus combien de milliers, wow. De petits signets ouais. aux chauffeurs de taxi. Et on a eu, après coup, de multiples témoignages. Il y a eu beaucoup d'appels d'hommes qui ont dit « Ben, moi, je vis ça, puis je crains que ça va mal. » Et qui ont appelé. On en a eu un an et demi après, qui ont continué d'appeler en disant « J'ai pas appelé à ce moment-là, mais là, ça va vraiment mal parce que là, je suis en train de tout perdre. Puis j'avais encore votre signet. »
Wow! OK, donc cette prévention-là, même si sur le coup, pour certains, ça n'a pas été utile,
à
retardement, ils ont laissé ça pas
oui.
loin.
Oui.
Donc, j'imagine que c'est une mesure qu'il faudrait qu'il soit implantée vraiment davantage, mais dans toutes les sphères de travail.
Bien, je pense que oui, tu sais, ce serait une bonne pratique à suggérer dans les ressources humaines, à suggérer dans les établissements et organismes qui viennent en aide à toutes sortes de situations, de dire, est-ce qu'on peut être attentif aux situations de crise variées que des hommes peuvent vivre pour lesquelles, malheureusement, ce sera souvent pas leur premier réflexe de demander de l'aide. Ils vont dire, non, je vais me débrouiller. Mais au contraire, il faut leur dire, oui, je suis sûr que vous êtes capable de vous débrouiller, je suis sûr que vous avez plein de ressources, mais si jamais c'est un peu plus dur que vous pensiez, on peut donner un petit coup de main. Des fois, juste d'en parler avec d'autres. Je sais que vous ne voulez pas inquiéter votre famille, c'est correct, je comprends, mais il faut quand même en parler, il faut que ça sorte, là.
Je sais qu'il n'y a pas de liste magique de, bon, quels sont les signes de détresse qu'on peut repérer rapidement s'il y a quelqu'un dans notre entourage qu'on pense que ça ne va pas bien. Mais ce serait, disons, lesquels les plus connus, les plus constatés.
Bien, un des paradoxes intéressants de ce que la pratique, puis aussi les recherches des dernières 20 années nous mettent en évidence, c'est que la psyché puis les modèles de réaction des hommes devant les situations de stress, de difficulté, de crise étant un peu différents, pas pour tous les hommes, mais pour quand même les hommes, je dirais, qui sont un peu plus aux prises avec le modèle traditionnel, l'image qu'ils veulent donner. Moi, je dirais que, ben, on le saurait, hein, vous les verrez pas souvent pleurer, vous mm-hmm. les verrez pas souvent faire la file d'attente devant un bureau de psychologue. Mais il y a d'autres choses. Ce qu'on sait, qu'on remarque du côté des hommes, c'est que l'anxiété et le stress vont se manifester. On va voir souvent une plus grande difficulté à faire face au stress. Là, ils vont finir par le nommer « là, je suis stressé, je ne sais pas, j'arrive plus à gérer mon stress ». Il y a des éléments comme ceux-là. Les troubles de sommeil vont souvent, bien sûr, découler de ça. L'autre chose qui est souvent intéressante à observer, en tout cas, on le voit quand on questionne les hommes, c'est leur changement de comportement et d'habitude.
OK. Dans leur routine, dans leur
day-to-day. Là, les hommes sont souvent très pareils. On s'habille pareil tous les jours, on mange au même restaurant de déjeuner, etc. Hein? On prend notre dîner avec telle personne.
Oui, à telle heure.
On est très routiniers, les gars, souvent. Donc, des changements. Il ne veut plus venir prendre son café avec nous autres. Ça fait trop midi qu'il ne vient pas dîner avec nous autres.
Un peu sans raison aussi?
Ben, on ne sait pas. On ne voit pas de raison. Okay. On ne sait pas quoi. Donc, des changements d'habitude significatifs. Là, je donne quelque chose de peut-être un peu anecdotique, mais des changements d'habitude vont être souvent un élément significatif. Des changements d'humeur. Et parmi ceux qui sont les plus visibles, c'est l'irritabilité.
OK.
Plus irritable. Le ton monte plus, il monte plus vite, il monte dans des circonstances où avant, le gars avait l'air d'être capable de le prendre, la joke, il apprenait, puis là, coudonc, pourquoi il est susceptible que ça cette semaine? Mm-hmm. Bon, ça peut être circonstanciel et être bénin, mais si ça persiste, ça peut être le signe qu'il y a quelque chose dans sa manière de se sentir, de penser la vie qui est en train de changer. Moi, c'est un des signes que je me suis mis à remarquer avec les années chez les hommes qui ne disaient pas ouvertement « je ne vais pas bien, je pense à des affaires que je ne devrais pas penser ». Des fois, bien sûr, voilà pour les signes. Des fois, bien sûr, il faut être capable d'aller les chercher un petit peu, les signes. Tu sais, juste « comment ça va, là? » Comment ça va pas en passant, là?
Comment ça va assis, vraiment, là?
Assis à côté. C'est pas pareil. Des fois, le petit silence finit par se transformer en bof. Bon, le bof, il dit déjà quelque chose.
Une autre étape.
Voilà. Et là, de bof, on peut peut-être aller un petit peu plus loin.
Parce que j'imagine la façon de faire la tournure, c'est d'aller le chercher.
Oui.
C'est ça, c'est la façon de faire. Parce qu'on le sait, bon, pour la plupart, c'est difficile de mettre son cœur sur table puis d'y aller, de dire.
Oui.
Mais j'imagine que la twist utilisée, donc si vous êtes une personne qui nous écoute présentement, c'est comme, OK, mais je ne sais pas comment aller le chercher. Oui. Je ne sais pas comment lui tirer les verres du nez. Ça, est-ce qu'il y a des trucs qui fonctionneraient peut-être mieux que d'autres?
Il y en aurait probablement plusieurs. Il y en a certains qui sont intéressants. Ce que j'étais en train d'évoquer, juste s'intéresser à eux, puis rester là pas juste poser une question en passant, mais j'ai le temps de m'asseoir 20 minutes avec lui. Il n'y a pas grand-chose à dire, c'est pas grave. Je lui montre que j'ai le goût d'être avec lui. Je lui pose des questions, je m'intéresse à ce qui se passe. À la limite, des fois, on est un peu ratoureux, on peut passer par... Coudonc, ça fait longtemps que tu ne m'as pas parlé des Canadiens. Y a-tu des transactions dernièrement? Tu sais, un gars qui s'intéressait au hockey puis qui n'en parle plus, là. C'est intéressant de poser la question. Quelqu'un qui avait un projet de rénover quelque chose, de faire quelque chose sur sa voiture puis qui ne le fait plus. Coudonc, qu'est-ce qui se passe avec ton auto? T'es rendu? Tu sais, on passe par des petites choses du quotidien qui peuvent être des indices de « oh, je file moins, ça ne me tente plus ». OK, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, d'une manière simple, rien de lourd, rien de compliqué. L'autre chose, si ça va un peu plus loin, ça peut être de dire, ben, je m'inquiète.
OK.
Moi, je m'inquiète.
T'sais, de mettre ses sentiments.
Tu dis, pas grave, moi, je m'inquiète pour toi.
Je m'en fais.
Je te vois, puis je suis préoccupé, je n'ai pas le gars pépé que je vois d'habitude. Ben, je sais bien que ça peut arriver, mais tu sais, je sais pas, là, tu m'inquiètes un peu, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui t'arrive. Je ne me mêlerai pas de tes affaires, je ne te forcerai pas à rien, là. Je veux juste savoir comment tu vas.
Parce que j'imagine que pour côtoyer beaucoup de gars, d'hommes, la technique... Non, mais là, tu vas me dire là, ce qui ne va pas, là. Ça doit moins bien fonctionner un petit peu.
Pas vraiment.
Hein? Dans l'accusation,
ça, c'est une bonne
là.
Recette ouais, pour hein? Avoir une dernière conversation.
C'est ça, exactement, puis depuis d'en entendre parler. Et justement, si quelqu'un, on a essayé tous ces petits trucs ratoureux-là, on a essayé de prendre du temps, de parler du Canadien, de parler... Et on voit que... C'est le silence. Non, ça va pas, mais je veux pas en parler.
Ouais.
J'ai pas envie d'en parler. Je t'en parlerai pas. S'il y a une attitude comme ça, là, qu'est-ce qu'on fait?
Je vais soupirer. C'est vrai que c'est la première réaction qu'on a. Moi, je dirais souvent, il faut pas s'arrêter à ce premier refus.
OK.
On peut revenir en taquinant le lendemain, le surlendemain, une autre fois. Puis souvent, ben, on a intérêt à appeler nous-mêmes à Suicide Action pour dire « OK, avez-vous d'autres trucs? » Je vais vous décrire un peu de quoi il a l'air mon Maurice, je vais vous décrire un peu de quoi il a l'air mon Yannick. Peut-être que vous allez pouvoir me donner une idée, puis peut-être que vous allez m'aider à trouver une façon ou à moi-même me dire « OK, garde, là, tu as fait ce qu'il fallait, il faut peut-être que tu y laisses un peu d'air. » Il va peut-être avoir compris que tu es inquiet. Puis bon, là, il ne voulait pas parler tout de suite, mais au moins, il sait. Il sait que tu es là, il sait que tu penses à lui, il sait que tu es inquiet. C'est sûr que quand on est proche, on risque d'être bouleversé beaucoup, bien avant qu'il arrive quelque chose, parce que des fois, on sent. En même temps, c'est pas parce qu'on sent que ça va arriver. Fait que ça, c'est tout le drame là, qu'on peut vivre des moments douloureux émotionnellement, puis finalement, ouf, la tempête a passé, heureusement. Mais donc, parfois, on a besoin de soutien pour nous, tout simplement.
Est-ce qu'il y a des services, des organismes, spécialement pour les hommes dans la région de Montréal, il y a quelqu'un qui nous écoute présentement, je m'adresse à qui, je vais où?
Bien, paradoxalement, il n'y en a pas une masse, on va être honnête. Okay. Il y a moins de services directement dédiés aux hommes, si ce n'est dans des problèmes. J'ai un problème d'alcool, j'ai un problème de violence, etc. Mais il y en a quand même quelques-uns. Ils sont un peu à la périphérie, je dirais. Par exemple, autour des séparations, il y a quand même des groupes, comme par exemple Pères séparés, comme par exemple Repères, qui, oui, vont donner de l'information juridique, là, pas des conseils, mais ils vont donner de l'information, aider les gars à comprendre dans quoi ils sont, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue. Et ils font des groupes de soutien. Il va y avoir des organismes qui interviennent auprès des pères. Bien, souvent, une des choses qui est difficile dans la vie des hommes, c'est comment j'assume mon rôle de père. Des fois, comment j'assume mon rôle de père après une séparation, alors que j'avais pas pris peut-être la place que j'aurais pu prendre ou dû prendre. Bien, il y a des organismes, coopères, certains centres de la famille, de la maison exigène. Si je dois me retirer de la maison parce que c'est pas une bonne idée de rester pour l'instant, c'est nécessaire de prendre un recul, mais je veux garder un lien avec mes enfants. Donc, c'est bon. Le centre où moi je travaille, le centre de ressources pour hommes, le service d'aide aux conjoints, qui sont des organismes qui ont des services assez généralistes. Donc, on accueille des hommes avec toutes sortes de réalités. Par exemple, au centre de ressources pour hommes, on a des groupes ouverts. On peut venir pour n'importe quel besoin. C'est un lieu de soutien informel. On a aussi des projets plus spécifiques. On a un atelier qui s'appelle Bilan de vie, projet de vie, qui se fait sur quelques semaines. Bien, pour faire le point après une période difficile, au moment où je dois faire des changements, prendre des décisions, bien, c'est un parcours qui permet de réfléchir, pas tout seul, avec d'autres hommes. Il y a des groupes autour de la dépression. Alors, je dirais, il y a des choses comme ça. Puis à la limite, je dirais même, le centre de ressources pour hommes, c'est aussi un centre de référence. Fait qu'à la limite, vous ne savez pas vers où aller.
Tout est là.
Allez là, ils vont au moins vous diriger à la bonne place. C'est probablement pas nécessairement ce centre-là qui prendrait le relais, mais il pourrait les diriger vers les ressources les plus appropriées.
Puis on dirait de terminer avec une question, mais qui peut nous partir pendant 8 heures, mais c'est correct, c'est bien.
Prenons
correct.
Prenons une chance. Vivons dangereusement.
On y va. Si jamais il y a des pères de famille, des mères de famille qui nous écoutent présentement, il n'y a pas de problème, rien là. Mais ils sont parents d'un jeune garçon, d'un enfant garçon, et là ils disent, comment je pourrais mieux accompagner mon petit gars? OK, on va y aller à la base de l'éducation. Comment on pourrait inculquer à cette toute nouvelle génération d'enfants, de jeunes hommes qui bientôt seront des papas, qui bientôt seront des ados, qui vont avoir à gérer leurs émotions à l'intérieur d'eux. Comment les parents qui sont à l'écoute présentement pourraient mieux les accompagner, ces jeunes garçons?
Curieusement, je reviendrai au tout début de notre conversation, si tu permets.
Ben
je
oui.
dirais, dans le fond, faire ce qui a manqué à trop de générations d'hommes, c'est-à-dire que leurs parents, père et mère, s'intéresse à savoir comment tu te sens, comment ça va. C'est une question qui finit par être bien correcte quand on y est habitué et qu'on ne la voit pas comme juste quand ça va mal.
Ou une attaque.
Pourquoi mes parents me regardent tout d'un coup ce matin?
Pourquoi ça irait pas?
Oui, c'est ça. T'sais, donc, faire de cette réalité-là, de se poser des questions. Comment ça va? T'as-tu mal à quelque part? Qu'est-ce que tu as fait? Des choses simples pour que les jeunes garçons, les jeunes hommes apprennent à porter attention à ça, apprennent à porter attention à ce qu'ils sentent, aux émotions, qu'on leur apprenne que les relations, c'est important. Alors, comment ça va avec ton ami Martin? Comment ça va avec Julie? Simplement que ça devienne normal de parler au quotidien de ce qu'on peut vivre, qui peut être un peu plus difficile un jour, moins difficile l'autre. À mon avis, ça va un peu contrebalancer ce que le modèle social global, sur lequel, honnêtement, on a une prise très limitée, leur dit qui est différent, qui est, t'es pas supposé avoir peur, t'es supposé être capable de sauter d'un troisième étage parce que tu veux vivre une isole, le faire 50 fois. ça leur montre que dans la vie quotidienne, il y a d'autres standards, puis qu'il y a d'autres choses qui sont importantes. Ils cesseront pas nécessairement de rêver à être la vedette en question.
Mais souvent, l'expression, moi, l'homme de la situation, ça revient souvent, c'est l'homme de la situation. Je peux être aussi la femme de la situation,
absolument,
si c'est
ben
possible,
oui,
sans problème.
Notre mairesse nous l'a montré à la dernière campagne.
Et voilà. Peut-être leur montrer que, tu sais, il y a différents chemins qu'on peut emprunter. Et que c'est normal,
oui,
et que ça fait partie de la vie, des fois,
exact,
un échec.
Et qu'on peut avoir ces fantasmes-là de grandeur quand,
oui,
on va au cinéma. Mais dans le quotidien, qu'est-ce qui est important? Ben, c'est d'être attentif aux gens proches de nous. C'est d'être bienveillant. C'est d'être capable de prendre soin de soi au quotidien. Ça, c'est réussir sa vie. C'est juste passer ce message-là, ça aidera les jeunes garçons à comprendre qu'il y a l'univers des fantasmes, des super-héros et de la télé et, mm-hmm, des super-productions. Et il y a la vie quotidienne où on peut faire des choses absolument fantastiques, merveilleuses, à vivre des expériences intenses sans avoir besoin de sauter d'un troisième étage sur une motocyclette.
Je pense que plus on va en parler comme on a fait aujourd'hui, plus on va sensibiliser tout le monde, puis les jeunes parents, puis les générations futures. Merci beaucoup. C'était tellement intéressant, M. Leroux. Merci d'avoir accepté.
Ça a été bien agréable. Merci.
Merci. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous pour cet épisode et merci à notre invité pour cette belle conversation. On vous le rappelle, si ça va pas, n'hésitez pas, vous composez le 1-866-APPEL. À la prochaine!